franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Dernière étape dans le Morbihan. Nous rejoindrons en fin de séquence le jeu des 1000 euros à Concoré. Ce village de 700 et quelques habitants est a priori à l'écoute des carnets vu le nombre de courriers que nous avons reçus. Pour citer en exemple l'association de la maison d'Ernestine. Ernestine, conteuse locale, aimait, paraît-il, à offrir le café dans sa maison à ceux qui acceptaient d'entamer une conversation avec elle. Et dans sa version actualisée, l'esprit est conservé. Dialogue, débat, rencontre intergénérationnelle. Avant son ouverture, un financement participatif et des chantiers collectifs sont organisés par l'équipe de l'association. Le site, c'est maisonernestine.fr. Deux invités pour clore cette édition, Myriam Pascot et Tiffaine Vigouroux. Or, Myriam est une des responsables de la Maison des aidants de Caudan. Ce lieu est destiné à soulager les aidants de personnes atteintes de maladies neurodégénératives et à leur apporter une aide technique et psychologique. Un article complémentaire paraît dans les pages numériques de La Vie sous la plume de notre confrère Laurent Gibowski. Tiffaine, elle, aux côtés de Jean Noël Yvon, son mari, pratique une ostréiculture traditionnelle. Bizarrement, la tradition signe le retour ici à des valeurs traditionnelles et en l'occurrence la production d'huîtres nées et élevées en mer.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Myriam Pascot, bonjour.
Bonjour.
Myriam, vous êtes co-responsable avec Nathalie Pierret de la Maison des aidants de l'association Cassiopée à Caudan, à côté de Lorient. J'avoue que nous avons reçu énormément de courriers de personnes dont l'histoire nous a touchés. Marie-Claire, qui est aidante auprès de sa fille atteinte de la sclérose en plaques, elle écrit « L'association Cassiopée m'apporte une écoute, un soutien ». C'est encore Marie-Noël qui en bénéficie personnellement, écrit-elle, avec une immense reconnaissance. Malheureusement, ajoute-t-elle, cette association a toutes les peines du monde à obtenir les financements qui lui permettraient de durer, ou encore celle de Lucette, 73 ans, atteinte de polyarthrite rhumatoïde et de maladie de Parkinson, et elle est aidante de son mari, atteint lui de la maladie d'Alzheimer. Elle dit, voilà, j'arrive à gérer, à supporter cette situation grâce à cette maison des aidants. Alors, une explication, l'association Cassiopée est née il y a 2 ans.
Tout à fait, oui.
Alors, les aidants sont les proches, les familles ?
Les aidants sont les proches qui s'occupent d'une personne concernée par une pathologie ou à domicile, les aidants familiaux.
Et alors, la maison des aidants est dans un site associatif ?
La maison des aidants est située dans un site associatif à Kerféo, dans un parc de 5 hectares. Donc, elle est non adossée à un lieu médicalisé. C'est ce qu'on souhaitait. Donc, c'est un lieu de mixité sociale, de rencontre.
Mais on y va par période, il y a des sessions. Comment se déroule l'accueil pour les aidants de cette maison des aidants ?
Alors, on est ouvert, nous, les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis. Donc, les matins sont réservés aux entretiens individuels. Et on va aussi à domicile pour présenter la maison des aidants. Les après-midi, c'est ouvert de 14h à 17h. Donc au niveau des ateliers que l'on propose, il y a des ateliers de création artistique, il y a des ateliers chant, il y a aussi une psychologue qui est présente sur le site les mardis après-midi, il y a des groupes de parole, il y a aussi des ateliers bien-être, et une fois par mois, on organise une sortie aidant-aidé.
L'objectif est lequel avec ce que vous mettez en place ?
L'objectif est d'apporter du répit aux aidants, qu'ils soient reconnus dans leur statut d'aidant et de leur apporter une écoute.
Mais reconnu dans leur statut, ça veut dire à quel titre, comment et...
Les aidants nous disent qu'eux, ils sont invisibles, qu'on ne les voit pas. Enfin voilà, ils ont besoin aussi d'être écoutés. Parce que pour pouvoir poursuivre à domicile avec la personne concernée, il faut que l'aidant lui aussi soit bien. Donc nous, on leur apporte voilà, cette écoute, du bien-être. On les aide aussi dans les démarches. Parce que souvent, les aidants ne connaissent pas en fait l'existence des dispositifs.
Mmh. Et votre association donc a instauré depuis septembre des cycles de formation pour faciliter cet accompagnement et donc l'acceptation du statut d'aidant. C'est une formation gratuite.
C'est une formation. Alors, on demande ce que je vous ai pas dit aussi pour participer aux ateliers aux aidants, une adhésion de 10 € à l'association. Mmh. Et pour pouvoir participer à cette formation qu'on a mis en place en partenariat avec Humanis. Il est demandé aussi une adhésion à l'association de 10 euros.
Donc rien.
C'est très peu de choses, oui. Ouais.
Et alors, il se passe, parce qu'on a compris par les courriers, que finalement, depuis l'ouverture de la maison en janvier, vous êtes débordé par les demandes.
Alors oui, à l'heure actuelle, depuis janvier, on a été contacté par 70 personnes. Il y a 48 personnes qui ont adhéré à la maison des aidants à ce jour. Et c'est vrai que ça continue, c'est très régulier les nouvelles personnes qui viennent, oui. Oui, oui.
Comment vous composez un programme mensuel avec des thérapeutes, des psychologues, même des cuisiniers, alors que, comme le dit Daniel dans son courrier, vous avez, et d'autres personnes, vous avez très peu de moyens.
Alors, au niveau des ateliers, c'est vrai qu'on arrive à trouver les financements via les caisses de retraite ou les mutuelles. C'est plus concernant le fonctionnement qu'on a des difficultés à trouver des financements, c'est-à-dire concernant le loyer, nos salaires. À ce niveau-là, c'est pour ça que là, on a mis en place une pétition que l'on souhaite adresser au pouvoir public, donc au conseil départemental, au niveau régional et départemental, et à l'ARS aussi.
Donc l'Agence régionale de santé.
Pourtant, de santé.
Quand on voit les bénéfices de ce que vous avez mis en place, normalement, vous devriez être facilement suivi, c'est pas le cas ?
Alors, vous dire qu'on a eu un entretien avec le conseil départemental là en octobre, oui. Et qu'à ce jour, on n'a toujours pas eu de réponse, de retour. Donc on est dans cette attente.
Oui. Vous allez trouver à notre page, la page Facebook Cassiopée Maison des Aidants. Et puis il y a une adresse électronique aussi si vous voulez entrer en correspondance directement avec l'association. C'est cassiopée@carfleo.org. Merci Myriam.
Merci à vous.
C'est presque une mode aujourd'hui que de se réunir autour d'un projet collectif ou dans un espace partagé. Mais au-delà de l'effet mode, je crois qu'il faut parler d'une tendance de notre société à chercher un second souffle par l'apprentissage de pratiques partagées, par des espaces de travail collaboratifs, par une démutualisation, comme on se plaît à le dire, c'est-à-dire des mises en commun de moyens de travail ou de production, ce qui allège les coûts et les dépenses. Deux exemples dans le Morbihan. Dans la commune d'Auray, tout d'abord, vient de s'ouvrir l'Argonaute, un espace de travail partagé que l'on préfère appeler là-bas tiers-lieu. Moyennant un abonnement, chaque personne peut accéder à un tiers-lieu de 300 mètres carrés qui se partage en ateliers d'artistes, en bureaux pour les travailleurs indépendants, d'espaces communs, de deux salles, l'une dite blabla pour les conférences, réunions et débats, l'autre dite cracra, salissante à volonté, je cite, pour les activités artisanales. L'Argonaute a choisi un très beau slogan, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Il y a une page Facebook à nos pages d'émission. Le second lieu est à Payac, on le doit au collectif du fauteuil à ressort, quel nom, fraîchement, constitué au printemps de cette année. La plupart des membres sont des professionnels du graphisme, de l'édition ou simplement des télétravailleurs. Et ils ont rapidement décidé que l'ancien relais de poste investi par l'association serait une parfaite vitrine de l'économie culturelle locale. Après 3 mois de travaux auto-réalisés et auto-financés, j'insiste, 8 personnes travaillent depuis la rentrée dans les 5 premiers bureaux ouverts et 3 autres personnes viennent régulièrement profiter de l'espace de travail. À terme, le lieu devrait recevoir d'autres activités avec un espace musique permettant répétition et enregistrement. Le bâtiment a des ressources et l'équipe a du ressort. Je ne sais pas si c'est à cause de cela que ça s'appelle le fauteuil à ressort. Là aussi, il y a une page Facebook pour ce tiers-lieu. Tiffaine Vigourou, bonjour.
Bonjour.
Ostréicultrice, vous êtes nombreuses à être vous êtes nombreuses de trois. On va le garder, ça, on va faire un bêtisier. Vous êtes nombreuses à être ostréicultrice en Bretagne ?
Je ne sais pas, je ne crois pas. J'en connais au moins 3. Sachant que on pourrait élargir le panel aux femmes d'ostréiculteurs qui n'ont pas forcément les diplômes nécessaires, mais qui travaillent tout autant que leur mari et qui connaissent bien le métier aussi.
Et c'est votre cas avec Jean-Noël ?
Voilà, moi je suis tombée dans l'huître avec Jean-Noël, je n'y connaissais rien du tout avant, et j'ai passé des formations, des stages, et je suis retournée au lycée pour en savoir un peu plus, en plus que ce que j'apprenais sur le tas, au chantier et au marais.
Et du côté de Jean-Noël Yvon donc, oui. Il y a combien de générations d'ostréiculteurs ?
Ça a commencé avec les grands-pères.
Oui.
Les premiers parcs de la famille ont dû être travaillés en 1895.
Et entre autres à Locoal-Mindon.
Oui.
Que s'est-il passé ? Il y a eu un changement, une transformation des pratiques chez vous pour créer ces huîtres naturelles ?
Alors, à l'origine, il y avait des huîtres plates en Bretagne uniquement.
Oui.
Il y a eu des épices aussi qui les ont fait disparaître. L'huître creuse est arrivée avec l'huître portugaise et puis ensuite la japonaise. Nous, c'est maintenant la japonaise qu'on cultive, la Cassostrea gigace. Et dans les pratiques, Jean-Noël, après les mortalités de 2008, a un peu changé son fusil d'épaule au niveau de la production des huîtres. C'est-à-dire qu'il est retourné un petit peu aux pratiques anciennes, à savoir éviter tout travail productiviste, on va dire. On a 14 hectares de parc,
ouais.
Et sur ces 14 hectares, on doit avoir à peu près 6000 poches, sachant que le schéma des structures de la profession autorise 5000 poches hectares. On est vraiment dans l'extensif. Mais je triche un peu parce qu'on peut dire que ces 6000 poches, elles sont à peu près sur 7 hectares, le reste étant des huîtres élevées au sol, comme
alors,
dans le temps.
Oui. Donc, attendez, j'essaie de comprendre, hein, parce que pour...
C'est compliqué, oui.
Pour les terriens de l'agriculture habituelle, on ne connaît pas nécessairement toujours la démarche de l'ostréiculture.
Oui.
On peut élever en version surélevée, justement,
voilà,
ou au sol.
Alors, cette version surélevée a été mise en place pour éviter les prédateurs. Les crabes, les dorades, essentiellement, dans la rivière. Nous, on a la chance que les dorades aient préféré rester... En aval de la ria, voire à l'extérieur et aller se nourrir ailleurs, on est encore un peu protégé. Donc on peut se permettre d'élever des huîtres au sol.
Vous avez parlé de la ria, ça n'a rien à voir avec la musique. La ria d'Etel, ça correspond à quoi?
Alors la ria, c'est le mot qu'on utilise aussi pour... ça serait la même chose pour un aber, pour une baie ou un estuaire. L'ostréiculture n'existe que à proximité d'un bassin versant. Parce qu'il s'agit pour l'huître de se nourrir de plancton, et le plancton naît là où se mélangent l'eau douce et l'eau salée.
Alors du coup, vous entrez dans différents réseaux, vous appartenez au réseau Cohérence, hein, qui va dans le sens d'une ostréiculture durable solidaire, vous êtes aussi bénéficiaire du label Sentinelle Slow Food, et puis vous revendiquez quelque chose aussi avec vos réseaux, c'est un étiquetage d'une huître naturelle.
Oui. Alors, effectivement, alors c'est parti de Cohérence. Alors, la charte Cohérence a été montée par Jean-Noël et deux autres ostréiculteurs. C'est une huître qui correspond effectivement à un cahier des charges assez strict, qui a un regard sur la façon de produire l'huître et sur la façon de maintenir l'environnement. Les seuls produits qu'on utilise, c'est l'huile de coude. Et on est très très regardant à suivre le rythme de vie de l'huître.
Oui. Alors, pour vous démarquer des producteurs qui sont dans la filière conventionnelle, productiviste comme vous le disiez, vous avez quel axe de diffusion?
On a vendu des huîtres en gros à des courtiers. On essaie de s'en libérer parce que c'est avoir un peu le couteau sous la gorge et être dépendant des prix que met la grande distribution en place, qui ne permet pas à l'ostriculture et à l'ostriculteur de vivre de son métier, parce que le prix de revient d'une huître au kilo est largement plus élevé que celui que la distribution propose. Donc nous, c'est plutôt le bouche à oreille. Ce sont les gens qui connaissent notre démarche et qui ont une certaine idée des valeurs qu'on veut défendre. C'est vrai qu'on a donc pas une énorme production. Il y a des années où on est très stressé parce qu'on ne sait pas si on va réussir à vendre toute notre production, ce qui fait qu'on... là, cette année, on n'est que 3 à travailler cet hiver, alors que l'an dernier, on était au minimum 5.
Oui, en effet, oui.
Voilà. Tout simplement pour essayer de faire des économies de charges et résister.
Les huîtres des établissements, ils vont père et fils, mais il faut ajouter Etifen, Vigourou.
Oui, merci.
Les huîtres naturelles, pluriel.wordpress.com, il y a aussi une page Facebook. Merci Tiffen.
Merci beaucoup.
Grand changement de décor la semaine prochaine, les carnets dans les Hautes-Alpes pendant la semaine. Lundi, nous vous présenterons une coopérative, c'est certainement une des plus anciennes qui va passer dans les carnets. Elle est née en 1920, les Jouets du Kera, 96 ans, toujours en activité. Et puis on vous présentera aussi une excellente plateforme de produits agricoles à destination de la restauration collective. Avant de nous séparer, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Eure-et-Loire et l'Indre sont nos étapes de janvier. Merci à Juliette Gou qui réalisait les émissions. Merci à Joël Levert, Florent Layani à la technique.